J'appelle au pire avec la convention d'objectifs et de gestion qui se négocie avec l'État en ce moment, puisqu'on reste tout aussi large dans notre secteur d'intervention qu'on était avant. Donc il reste 4 ans pour essayer de faire avancer les consciences. Mais merci beaucoup, ça m'a fait un bien énorme.
Vous avez bien compris, vous diffusez tout ce que vous voulez, sauf la liste de définitions.
Oui, Franck Joubon. L'idée qui m'a bien plu, c'est les tiers-espaces, parce que, de fait, vous n'avez pas trop parlé du travail et de l'emploi, donc, ça correspond tout à fait au tiers-employeur, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait depuis un certain temps pour regrouper des employeurs, faire des centres de ressources et mobiliser des ressources différentes sur des emplois différents et des lieux différents, correspond tout à fait à cette société mobile. Alors, là, j'ai un peu d'expérience dans ce sujet et pas mal d'exemples. L'interrogation que je me pose, c'est que quand vous dites l'État, enfin les élus, vous dites le fief, d'accord, une critique, vous critiquez aussi l'administration dans l'ancien système, mais vous critiquez jamais le citoyen. Et donc le citoyen est toujours sacralisé, et donc il n'est jamais présenté comme quelqu'un qui finalement est un assisté, qui est bien content de ce qui se passe et qui n'a pas du tout envie de devenir acteur. Alors, je sais pas si c'est un peu les universitaires qui sont comme ça, mais lui, il rencontre pas mal de gens qui n'ont pas du tout envie de cette société et qui veulent un élu qui répond à leurs questions, qui répare leurs affaires, et puis il veut une administration qu'ils peuvent rencontrer et d'ailleurs de plus en plus engueuler parce que l'administration est, dans beaucoup de secteurs, subit des agressions des citoyens. Et donc, cette interpellation du citoyen, je crois qu'il faut la faire. Il faut leur dire qu'on peut plus. On n'est plus dans une société où vous n'aurez pas à participer. Et même les besoins que vous aurez à satisfaire, vous devrez y participer pour pouvoir les satisfaire. Alors c'est la question que je voulais vous poser.
Oui, mais je suis d'accord. Il faut pas mythifier le citoyen, je suis d'accord. Je voudrais pas avoir donné l'impression d'avoir fait. J'ai peut-être manqué de courage, parce qu'évidemment... Non, en fait... Le citoyen, c'est une catégorie abstraite. Il y a une grande variété de comportements citoyens. Je rétablirai une certaine forme de justice en disant que dans ce triptyque que j'ai installé, l'élu, le professionnel, le citoyen, et qui à mon avis, a rendez-vous avec l'interterritorialité, même si il ne conscientise pas ce rendez-vous, il est là, ça c'est certain. Je pense que ceux qui iront les plus vite, c'est les élus. Je pense que c'est les élus parce que ils sont déjà dans de très nombreuses ruses pour pouvoir agir en faisant ce travail que monsieur le directeur de la CAF énonçait là, de façon parfois quasi clandestine ou en tout cas informelle. Le truc informel, qui est évidemment d'un certain point de vue politique assez gênant, mais qui en même temps est une solution, ça s'appelle le cumul des mandats. C'est-à-dire, comment je fais pour coordonner deux niveaux de collectivité? Je me fais élire aux deux niveaux. Je suis moi-même un être interterritorial dans ces conditions. Bon, évidemment, c'est un peu scabreux comme solution, mais c'en est une. Il y a beaucoup d'autres formes observables de ruse avec les schémas cloisonnés pour continuer à mettre dans l'organisation territoriale la flexibilité et les alliances variables qu'on souhaite. Par exemple, vous avez tous au moins en perspective cette loi sur l'intercommunalité qui a fondé les communautés de communes, communautés d'agglo, communautés urbaines, et fait la chasse aux syndicats uniques, aux CIVU, aux CIVOM, aux syndicats mixtes. Mais les élus savent très bien que c'est la condition d'organisation des territoires tels qu'ils fonctionnent que d'avoir des alliances à géométrie variable sujet par sujet. Et qu'on ne pourra jamais intégrer le tout sous le même toit de l'ensemble des nécessités d'un pays qui sont aussi variées que le ramassage des ordures ménagères, la distribution des repas aux personnes âgées, et je ne sais quoi encore. Il n'y a aucune raison que ces nécessités sociales, techniques et autres soient servies dans le même périmètre. Donc je pense que le monde des élus, il connaît ça, il sait ça. Il ira au rythme où il sentira l'opinion publique prêt à aller, mais par exemple, je reviens sur ces mandats fléchés, si nous entrons dans un monde politique où les campagnes seront d'expliquer ce que le candidat A veut faire au double niveau communal et communautaire, la communauté d'aglo, pendant que le candidat B prendra une option différente, mais toujours, il y aura du débat interterritorial, ça ira très vite. Je pense que le monde qui ira le moins vite, c'est le monde de l'administration. Tant qu'il ne sera pas professionnellement organisé autrement. Et il existe un corps qui forme les membres de la collectivité territoriale, je m'entends très très bien avec eux, bien sûr, je ne suis pas du tout en guerre, hein, qui s'appelle le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, avec son institut pour les administrateurs à plus, c'est-à-dire pour les patrons des grandes collectivités, et ces gens ont vraiment une très forte culture de l'entité qu'ils dirigent, et ils seront attachés et arc-boutés jusqu'au bout à leur autonomie de gestion et à leur pouvoir propre. Un DGS, un directeur général des services, ça a vraiment une poigne forte et ça n'a pas du tout envie de lâcher la main avec quelqu'un d'autre. Et entre les deux, je mettrai notre grande diversité citoyenne avec des endroits ruraux autant qu'urbains où les groupements d'individus se projetteront eux-mêmes dans de l'action militante mondiale, et ils le font déjà, au nom de la coopération décentralisée, au nom de la protection d'une espèce, au nom de etc., etc. Et puis d'autres endroits, urbains comme ruraux, où on aura des groupements citoyens qui seront effectivement dans cette position très simplificatrice, consistant à dire, moi, je veux savoir qui est le responsable. Et si on lui répond, c'est le système, ça le fait pas, hein. Effectivement, il y a de la protestation. Mais oui, tout à fait d'accord, ne mythifions pas le citoyen, surtout pas comme étant en quelque sorte la frange avancée pour aller vers cet ordre politique nouveau. Il y aura une grande diversité de situations qui va avec celle que Sylvain évoquait dans sa question, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le grand problème de l'interterritorialité, c'est que c'est un nouveau champ d'inégalité. C'est clair qu'il y a des mondes fermés. Et que c'est issu de certains handicaps professionnels, sociaux et territoriaux, avec des gens qui bougent peu, hein, et qui s'auto-convainquent que c'est bien comme ça, mais en fait ils sont assignés professionnellement, résidentiellement, familialement, culturellement, etc. Ça va devenir terrible de vivre de façon très introvertie et très fermée dans un monde aussi mobile et aussi ouvert. Et donc là, il y a un défi de cohésion sociale, de ne laisser personne très très loin derrière dans un monde qui s'interterritorialise. Ça sera, à mon avis, le facteur de la cohésion sociale que de rendre accessible cette fréquentation, cette expérience personnelle de la pluralité territoriale et sortir du village, sortir du quartier.
J'ai vu une jeune demoiselle ou une jeune femme faire non de la tête lorsque vous avez pointé l'inertie de l'administration. Elle interviendra peut-être pour témoigner éventuellement, mais auparavant, à bonne foi.
Merci Monsieur Vanier pour votre conférence et ces très belles allégories. Je pense que c'est important pour le public de voir aussi qu'un géographe ne parle pas que de géographie. Et que pour avoir lu votre ouvrage, vous avez un très beau langage et je pense que c'est très important aussi qu'on vive d'espoir et vos mots sont pleins d'espoir. Je voulais vous parler du monde du travail, à savoir que pensez-vous de la mobilité de travail dans le monde des galaxies? Est-ce que cette mobilité va venir? Est-ce qu'elle va changer? Vous montrez dans votre ouvrage qu'au Japon, il existe non pas la résidence principale, la résidence secondaire, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens, bien entendu, de se payer une résidence secondaire, tout le monde n'a pas les moyens, mais la résidence travail. Ça veut dire qu'il y a une mobilité qui fait que les gens ont leur résidence travail et leur résidence principale. Et je pensais là aux exemples que nous donne la jeunesse, à savoir les étudiants, qui sont capables de partir Erasmus et qui sont capables de changer de ville parce qu'ils savent que là, il y a une université, etc., qui va les attirer. Et je pense qu'il y a un problème, en effet, de générationnel par rapport à l'interterritorialité qui fait que peut-être que les personnes, les anciennes générations, justement, n'osent pas bouger. Et on a aussi construit le monde de telle façon que l'industrie est liée à l'habitat. On voit bien qu'au XIXe siècle, les ouvriers vivaient près de leurs usines. Donc il y a aussi, et aussi dans le monde agricole, une tendance qui est peut-être spécifiquement européenne ou française à ne pas vouloir, comme vous le dites, quitter le lieu. Alors moi, j'ai envie que vous me disiez avec espoir, monsieur, comment quitte-t-on le lieu?
Ben, on quitte nos lieux en créant des nouveaux liens. Enfin, c'est un jeu de mots sur le lieu et lien, puisque c'est le couple de cette genre de réflexion, le lieu et lien. On quitte nos lieux, si tant est que ce soit une nécessité, et ça peut l'être, bien sûr, en fabriquant du lien, c'est-à-dire en se donnant la capacité de réatterrir quelque part ailleurs. Pourquoi là? Parce que on a un contact, on a un réseau, on a une accroche, etc. C'est-à-dire qu'on a du lien, et donc on peut effectivement s'émanciper de certains lieux qui sont tellement évident qu'ils en sont étouffants,
Aliénant.
Aliénant, absolument. On peut s'en émanciper en cultivant du lien. Les exemples que vous donnez sont tout à fait pertinents, et je pense en particulier à ce rapport au lieu de l'exploitant agricole. Parce que, ayant vécu un tout petit peu, juste une année en Amérique du Nord, j'ai découvert qu'une partie de la profession avait l'habitude de changer de ferme. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, c'est un exploitant agricole, bah, il a fait 10-15 ans dans une exploitation, il l'a vendu, il est allé ailleurs. Or, la paysannerie européenne et française, française à coup sûr, elle a quand même une attache autrement familiale, hein, au siège d'exploitation. Bon, ne refaisons pas notre histoire, et surtout ne stigmatisons pas d'où nous venons. Mais effectivement, faisons en sorte que dans un schéma qui est celui d'une société dans sa globalité. Et on peut toujours discuter des excès de la mobilité. Ce serait important, enfin, moi je suis prêt à en discuter. Hein, dire, la mobilité jusqu'où ? Il y a certainement une limite. Il y a une limite, on peut dire, durabiliste. C'est combien d'heures par jour ? La vitesse, c'est combien ? Les portées, c'est combien ? Qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire ? Est-ce que Sylvain, moi et d'autres, on n'en fait pas trop ? Si, on pense qu'on en fait trop. Il y a une éthique de la mobilité à trouver. C'est ce que j'appelle la condition sociale de l'homme mobile. Là, pour l'instant, on est en quelque sorte dans une sorte de consommation très excessive des horizons que ça ouvre. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette société, elle est en train de se refabriquer autour de l'accès à la condition de l'homme mobile. Et il est effectivement, à mon avis, central, au même titre que la question de l'éducation l'a été dans d'autres circonstances historiques, de ne pas laisser ou de ne pas enfermer des groupes sociaux issus de catégories de travail ou de types de fonctions en dehors de ce mouvement-là. Et bon, monsieur a parlé d'un autre tiers que celui que j'évoquais. Je pense qu'il y a rien d'autre que la culture des liens qu'on se fabrique dans ces mondes professionnels, à l'école, dans la culture, sur le net, dans nos pratiques diverses et variées, qui font qu'à un moment donné, il n'y a pas qu'un lieu, mais il y a une pluralité de lieux. Mais ceci dit, je suis très sensible à ce que vous dites, parce que j'habite dans une petite ville de 6000 habitants qui est à 30 km de Grenoble, qui est une petite ville ouvrière qui est construite sur 3 usines, une de papeterie, une de machine à papier et puis une troisième de laminoir à froid, avec une forte classe ouvrière très très locale, issue de l'immigration portugaise pour une partie. Et je vois les jeunes gens, les copains de mes trois garçons, qui reviennent se réancrer dans cet endroit où il n'y a pas de boulot, où il y a très peu d'offres culturelles, où il y a une certaine pauvreté des relations sociales, parce que c'est chez eux, qu'ils n'ont pas d'autre horizon. Et on les voit avec mes fils, qui eux font leurs études à Grenoble et ont la chance de qu'ils ont. On voit cet enterrement, hein, cet enterrement dans le lieu. Et on voudrait ne pas les priver, le moins du monde, de leur repère et de leur ancrage, mais leur dire, mais tu sais, à 30 km, 30 km, il y a Grenoble, à 70, il y a Lyon. À 90, il y a Genève, etc., etc. Et alors, effectivement, pour moi, l'interterritorialité, c'est aussi un rendez-vous social.
Gardons à l'esprit, avant de donner la parole à Jam, et on reviendra vers la salle, que néanmoins, la mobilité, et vous venez de l'illustrer tel que vous l'entendez, ne se résume pas à des questions de transport. Elle peut être idéale, la mobilité, par l'esprit, par les moyens de communication. Il y a des territoires mobiles, justement, parce qu'ils permettent propices à l'homme mobile, au sens où ils accueillent des théâtres, des cinémas, qui sont autant d'ouvertures sur le monde. Hein. Voilà. Jam, si vous voulez bien, et on revient sans plus tarder vers vous.
Dans 8 jours très exactement, on va aller présenter les résultats du travail du Conseil de développement responsable aux élus de la CAP. 5 mois de travail, 150 personnes, bon, tout le monde bien sûr n'y a pas participé, mais quand même, une bonne partie y ont participé. Et dans ce conseil, c'est pour ça que j'écoutais avec attention, on a des élus, qui sont pas trop intervenants, quand même, plus écoutants qu'intervenants, mais c'est un petit peu, ça fait consensus entre nous. Des socioprofessionnels, des citoyens, des représentants d'associations, donc un petit peu, et dans les citoyens, mais aussi dans les autres groupes, on a aussi des fonctionnaires, hein, des gens de l'administration. Donc tout ça pour vous situer un petit peu. Donc c'est vrai que quand j'ai écouté le début de vos propos, j'étais un petit peu inquiet parce que il ne s'agirait pas qu'ils nous démontrent l'inverse de ce qu'on va les présenter dans 8 jours, parce que d'ici 8 jours à 150, on n'a pas le temps de refaire un peu les choses. Donc je ne vais pas vous citer trop long de ce texte, mais déjà dans les éléments de contexte, ça va très très vite, mais on signale qu'un des éléments à prendre en compte, c'est la démographie. Un autre élément incontournable, c'est les mutations. On a mixé économique et environnemental. Et le troisième, c'est l'échelle territoriale du projet doit être systématiquement réinterrogée. Donc on a mis ça comme point incontournable, au même titre qu'on a mis la mutation économique. Donc c'est quand même. Donc j'aimerais avoir un petit peu votre avis. Et puis pour vous donner un deuxième exemple, un des titres, on a trois grandes séries de propositions. Et une des propositions, c'est penser le développement économique du territoire, c'est repenser ses coopérations. Bon, déjà, j'étais un petit peu rassuré après, quand j'ai vu qu'on avait ça dans nos textes, donc on n'est peut-être pas complètement au dehors de la PAC. Mais la grande difficulté, c'est plutôt là ma question, c'est comment est-ce que... moi, je vois bien un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. Le problème, c'est, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur comment on peut pratiquer ? Et je terminerai par une anecdote. Le président de la CAP a fait un passage rapide parce qu'il avait d'autres charges ce soir. Il regrette de ne pas être resté avec nous. Mais il m'a précisé que dans une des prochaines commandes qu'on allait avoir au Conseil, c'est de voir sur les relations entre Poitiers et Châtellerault, interterritoriales. Donc je me suis dit, là aussi, on devrait avoir un certain nombre de choses à faire. Donc je suis rapide parce que l'heure tourne, mais j'aimerais avoir un peu votre sentiment déjà sur ces quelques propos. Merci.
Bah, vous faites certainement beaucoup de choses déjà. Hein. Je pense que c'est un territoire qui a plutôt fait la preuve de sa capacité d'innovation en termes de politique publique. Je dis pas ça parce qu'il y a Dominique Royaux dans la salle, mais parce que il faut être ailleurs qu'en Poitou-Charentes pour savoir que votre travail sur les réseaux de villes, les R198, même si c'est un peu ancien, vos clubs d'entrepreneurs innovants, le seuil Poitou numérique que je connais, enfin bon, tout ça, c'est des choses qui sont dans l'air de tout ce que j'ai raconté. Mais bon, je fais des propositions, puis si ça existe déjà, ben c'est très bien. Si ça n'existe pas, ben, je sais pas, organiser une conférence territoriale. Organisez, vous, les conseils de développement, vous avez la main pour ça. Celui de la communauté d'agglo ici, je suppose qu'il y en a un à Châtellerault, enfin, je ne sais pas trop. Ou avec vos équivalents dans les pays. Proposez aux élus de monter une conférence territoriale. Pour faire quoi ? Mais pour parler de votre galaxie des territoires, pour parler de votre agencement d'espaces urbains, ruraux et mélangés, c'est là que ça se complique, et surtout pour vous défaire de toute autre perspective de qui fait quoi, répartition des compétences, adhésion à l'interco, SCOT et tout le bataclan. Non, échapper à tout cela, ça viendra plus tard. Construisez déjà pour l'instant le périmètre dans lequel on débat largement de l'ensemble des lieux qui sont finalement pris au quotidien par les enjeux que vous avez évoqués, économie, écologie, démographie, oui, démographie, donc migration, donc mouvement, donc mobilité, etc. Organiser cette conférence territoriale, organiser-la largement, et ça sera à coup sûr le premier d'une série de rendez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, les territoires qui vont honorer, pas jouer au prophète, mais rencontrer vraiment cet agenda interterritorial, ils sont déjà au travail sur ces conférences, qu'ils appellent métropolitaines en général, mais qui consistent donc à aller fabriquer avec d'autres l'explicitation, la compréhension, le récit de ce que sera le territoire de demain. Parce qu'on a fait quand même ici aujourd'hui un exercice un peu prospectif, on essaie de regarder comment ça peut se passer demain. Donc demain, à coup sûr, on va pas continuer à gérer le territoire avec les simples communautés qu'on a constituées à la fin du XXe siècle. Ça va pas suffire, hein. Ça c'est sûr que les réseaux vont venir nous bousculer cruellement. Et si on l'organise pas politiquement, dans des conférences territoriales élargies, en prenant des contacts lointains, ceux qui vont organiser notre vie seront les opérateurs de réseaux. Ce sera plus les territoires. Ce sont ceux qui nous transportent, nous connectent, nous apportent notre eau, notre internet, etc. Et ça peut être des sociétés nationales, espérons-le, donc d'intérêt public, se comportant parfois un peu trop comme des États dans l'État, en tout cas pas vraiment des organismes démocratiques. Hein. La SNCF, c'est pas vraiment un gouvernement démocratiquement élu. Hein. Mais ça peut être aussi carrément le marché. Hein. Et les organisateurs de territoire, l'organisateur de la galaxie, ça risque d'être ces grands opérateurs publics et privés qui seront très très loin de la chose politique. Donc, poser ces questions et aborder ces enjeux dans des conférences territoriales élargies, de sorte que vous puissiez pousser, que nous puissions pousser, excusez-moi, dire, nous, les citoyens, qui sommes tous impliqués professionnellement, certes, mais enfin, c'est quand même les citoyens, pousser les élus à créer un jeu de relations politiques qui les sorte des périmètres qu'il a bien fallu qu'ils constituent. Parce que le meilleur et le pire de la décentralisation, c'est qu'il a fallu qu'ils se fabriquent ces périmètres. Et ils ont mis 25 ans à les affirmer. Et ça y est, et c'est très bien. Mais maintenant, il faut en sortir. Et la décentralisation a fabriqué des nouvelles enveloppes, communautés, pays, etc., etc., a délégué des compétences et a dit aux élus, vous avez le pouvoir, et aujourd'hui, il faut qu'ils le partagent. Donc, c'est pas facile d'accepter de partager le pouvoir alors qu'on vient justement de le constituer, de l'acquérir, de l'affirmer, les impôts, les compétences, les administrations, etc., etc. Et je pense qu'il y a un aiguillon citoyen qui doit pousser à agrandir les périmètres et les conférences, oui, les consortiums, les fédérations, les groupements, les ligues, les forums. Vous pouvez utiliser tous les termes possibles, imaginables pour vous retrouver.
Une question, nous approchons hein, tranquillement vers la fin.
Peut-être on cumule les trois
questions. Oui, volontiers, Virginie.
Bonsoir. Vous venez de faire en fait la transition à ma question. Je m'interrogeais justement sur le lien entre interterritorialité et pouvoir, parce qu'on sait que la notion de territoire est liée à celle du pouvoir. Et est-ce que le pouvoir ne peut pas être frein justement à la mise en place de ces espaces pluriels, de cette interterritorialité?
Le pouvoir des territoires.
Alors, monsieur, on recueille hein, les...
Oui, en vous remerciant, comme mes prédécesseurs, pour la qualité de votre intervention et notamment aussi pour votre incitation au respect et à la nécessité de rendre intelligible la complexité plutôt que de vouloir continuer à vouloir la réduire. Ce qui, je pense, est un effort vain et surtout démobilisant pour tout le monde. Ma question portait sur qu'est-ce qu'on fait des notions de compétition et de concurrence par rapport à l'intelligence de l'interterritorialité, oui, j'y arrive pas, à laquelle vous appelez, à laquelle je pense on est quand même assez nombreux ici à souscrire. Compétition, concurrence sont quand même aujourd'hui fortement ancrées dans les modes de gouvernement de l'ensemble des territoires du plus haut niveau. Hein, pensons à notre Europe, par exemple, qui prétend avec sa stratégie de Lisbonne être le continent le plus intelligent. Enfin, je vais très vite, mais voilà, être plus intelligent que les autres. La moindre commune de France, il y a quelques centaines, j'imagine, qui se revendiquent centre de l'Europe ou nombril de l'Europe depuis des décennies. Tout ça sur les arguments, certes, marketing, mais donc, derrière, on voit bien qu'on fonctionne quand même sur des modes de compétition et de concurrence. Et comment on articule ça? Alors, peut-être que ce qui est sorti de Londres aujourd'hui nous fait évoluer vers un nouveau modèle où cette concurrence, cette compétition va se réduire. Je l'ai pas encore entendu et je ne serais pas forcément si optimiste. Donc, comment vous voyez cette articulation?
Une intervention, pour le coup, très complémentaire avec celle de Madame Monsieur, et ça sera donc la dernière question.
Bonsoir, merci pour votre excellent exposé et puis les problématiques qu'il ouvre. Alors, moi, ma question porte sur est-ce que les identités locales sont solubles dans l'interterritorialité? Je me rappelle, il y a eu un mouvement d'élus pour demander la création d'un département basque, séparé du Béarn, mais qui apparemment n'a pas eu de succès. Et en même temps, lors de des travaux de la commission Balladur, qui préconisait peut-être la disparition du département, par exemple, pour la Picardie, beaucoup de voix sont élevées. Oui, mais bon, ça existe la Picardie, c'est pas seulement historique, etc. Donc les gens, il y a une espèce de... Alors, les identités locales ou les identités culturelles, régionales en France, est-ce qu'il y a une survivance ou, bon, on parle le cas corse, mais bon, quand même, est-ce que c'est... Parce qu'à l'échelle de l'Europe, on voit quand même un surgissement comme ça des identités, des nationalismes régionaux, on les appelle, le pays flamand, en Belgique, je ne parle pas du Pays basque ou la Slovaquie, enfin, bien qu'elle existait en tant que nation déjà, mais enfin, ce type de mouvement, est-ce que la démocratie actuelle républicaine en France est suffisante, se dit suffisante pour que, bon, on n'a pas besoin de s'appuyer sur ces,
ces marqueurs? Grosse question. On va s'en tenir là, si vous le voulez bien. Élément de réponse de Martin Vanier.
Bon, c'est des questions qui me surprennent pas, et pour autant, j'ai beaucoup de difficultés à y répondre de façon complètement convaincante ou même convaincue. Mais enfin, c'est des questions qui reviennent à chaque fois. Les deux, qui sont pas si éloignées que l'une que ça. Les deux, parce que je pense que globalement, c'est l'expression de la même. Il y a dans l'hypothèse interterritoriale, c'est-à-dire dans le récit que je vous ai fait, le risque de nous annoncer la fin du politique, c'est-à-dire le monde dans lequel les gens raisonnables vont pouvoir s'entendre, puisqu'on leur dit, mais écoutez, c'est dans l'alliance que vous existerez, alors s'il vous plaît, arrêtez. Mais non, mais en fait non, jamais, jamais, parce que le pouvoir est une ressource. Et il faudrait donc aller au bout de cette hypothèse interterritoriale et dire, le pouvoir des territoires était une ressource, mais c'est une ressource épuisée. Par contre, le pouvoir de l'interterritorialité est la nouvelle ressource. Autrement dit, qui va se battre désormais, non pas des territoires en compétition, des grands et des petits élus, des communautés identitaristes fabriquant donc des nouvelles entités pour se distinguer, différencier, pour le meilleur ou pour le pire, plutôt le meilleur du côté Pays-Bas sans doute, et malheureusement le pire du côté de la Belgique et de la Wallonie, enfin plutôt du pays flamand, qui, etc. Bon, bref, la compétition est là, et on pourrait sans doute trouver une sortie à la tension que ça installe. Tu nous parles d'interterritorialité alors que la compétition est là et elle sera toujours là, en signalant que cette compétition va se porter sur la capacité d'articulation. C'est-à-dire que seront les puissants, ceux d'entre les organisations politiques, communautaires, etc., etc., qui sauront organiser le lien, la négociation, la circulation, etc., y compris dans des formes relativement coercitives de captation de ce que représente cette capacité de coordination. Ce fameux chef de file-là, qui effectivement est un truc bizarre. Chef de file, il ne faudrait pas que ça nous amène à penser ou à dire « je ne vois qu'une tête », parce que c'est quand même ça, le chef de file. C'est la tête de la file. On ne voit plus les autres têtes derrière. Enfin, moi, j'ai fait l'armée, hein, donc j'ai appris ça. J'ai un problème avec l'armée. Hein. Dans le chef de file, on ne voit que la première. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met le plus grand. Donc, l'interterritorialité peut être la nouvelle ère politique dans laquelle le combat sera celui de la captation de la position de l'organisateur. Et on voit très très bien comment aujourd'hui les régions se verraient bien jouer le rôle de chef d'orchestre des collectivités territoriales. Comment l'État se dit, vous n'avez pas échappé de voir la grande défaite de l'État territorial, la disparition des DDE, fusionné avec les DDA dans des trucs qu'on appelle les directions départementales des territoires, même chose au niveau régional, la baisse drastique des effectifs des fonctionnaires et la perte de substance qu'il y a dans les structures de l'État territorialisé, qui est très très inquiétante. Donc quand l'État regarde ça, il se dit, ouais, bon, je maigris, je perds mes capacités, mais peut-être que je pourrais être le chef d'orchestre. Hein, c'est celui qui joue pas d'instrument. Bon, il faut quand même qu'il se fasse reconnaître par les instrumentistes, c'est pas gagné. L'Europe pourrait dire, mais attendez, moi je suis l'organisateur des politiques régionales, hein, c'est moi qui ai l'argent désormais. Bon, c'est pas vrai, mais bon. Oui, il y a compétition sur la fonction, mais on peut le voir au niveau international. Hein. Vous avez vu ce qui se passe dans le G20. Alors, qui est le chef d'orchestre? Obama ou celui qui dit, si on m'écoute pas, je repars? C'est exactement ça. Donc voilà, n'ayons pas une conception naïve, parce que le discours est bel et bon, donc on l'achète et on y trouve effectivement des raisons d'optimisme, en tout cas des raisons de réinvestir le politique et de ne pas désespérer de lui. Ça, je pense qu'il faut garder. Il ne faut pas se laisser leurrer. L'interterritorialité sera une bataille. Je voudrais, pour faire le lien avec la dimension identitaire, et donc celle de nos appartenances, dire que en travaillant ces deux choses-là, je retrouve, moi, la question du fédéralisme, que je ne m'attendais pas à retrouver dans mon parcours de recherche et mon parcours politique personnel, pour me rendre compte que finalement, cette organisation à la fois sociale, communautaire et politique, dans laquelle une bonne moitié de la planète 40% des gouvernements, très exactement, cherchent depuis déjà deux siècles à fabriquer un système plutôt horizontal que hiérarchique, qui est plutôt de l'ordre de la coordination, dans un premier temps même de la coexistence. Les 13 colonies américaines, elles sont côte à côte. C'est pas vraiment une galaxie de territoire, c'est juste des endroits, c'est une insularité de territoire, c'est un archipel. Donc, mais bon, la coexistence puis la coordination. Et aujourd'hui, l'expression est de l'intergouvernementalité. C'est pire que mon truc, mais c'est une expression reconnue dans les milieux du fédéralisme allemand, américain, etc. Donc si ce système travaille une partie de la planète, nous avons, nous, sans doute, pays centraliste, qui a ses vertus et ses tares, à nous en inspirer pour ce que vous avez dit, monsieur, savoir quoi faire de ces revendications identitaires qui émergent, qui sont certainement irrépressibles, dont on sait qu'elles sont très liées à la mondialisation, et qui serait la pire des erreurs que de vouloir nier, etc. Mais aussi pour trouver une forme de pacification démocratique à la quête de la position dominante. Et le fédéralisme, c'est pas la paix des braves, hein. C'est la bataille, hein. C'est les Canadiens qui s'entre-déchirent, mais qui le font dans une règle. C'est les Allemands qui ont beaucoup de mal entre leur Länder et le fédéral, mais qui le font dans une règle. Bon, des fois ça marche pas, c'est la Belgique qui explose, c'est vrai. Bon. Mais enfin, globalement, le fédéralisme est ce système dans lequel on énonce les règles de la coordination. Or, nous ne savons pas du tout faire parce que nous avons une culture de la hiérarchie. Donc, il va falloir que nous inventions les règles de la coordination dans nos métiers, dans nos professions, dans nos administrations territoriales, dans notre monde politique et dans nos scènes citoyennes aussi. C'est-à-dire, quand on est en désaccord, on fabrique quelque chose qui nous permet de continuer à exister ensemble, qui est un relevé de conclusion, un relevé d'étape, un point de rencontre pour la prochaine, etc. Mais on ne dit pas « c'est mort », parce que sinon, il n'y a plus de système fédéral. Fédéral, pour que, hein, ça vient d'un mot latin, paraît-il, qui veut dire « alliance ». Voilà. Et c'est ça qu'on a fabriqué, qui n'est pas forcément un conte de fées.
Martin Vanier, au nom de l'espace Mendès France, au nom de du Conseil de développement responsable de l'agglomération de Poitiers, permettez-moi de ne pas vous remercier parce que ça ne serait pas à la hauteur. Et comme moi, je me garderai aussi de conclure. On a bien compris que vous n'aimez pas les définitions. On imagine que vous n'aimez pas non plus les conclusions. Et on a bien compris, d'autant que on a bien compris que le propos de votre intervention, c'était de nous doter de nouveaux outils. Et quels outils? Pour confronter, nous affronter, comme l'a très bien souligné monsieur, la complexité. Et soyez-en remerciés. Alors nous allons, charge à vous, mesdames, messieurs, de poser un autre regard sur les problèmes tels qu'ils se posent sur vos territoires avec ces outils pour vérifier leur pertinence. Bien évidemment, un merci aux deux interprètes, alors que vous avez mis au supplice, hein, parce que. Alors, et c'est une dernière demande, et je vous prie de m'en excuser par avance, mais c'est notre petit rituel. Je vais vous redemander, mesdemoiselles, de nous traduire le nom de monsieur Martin Vanier, et puis, une toute dernière fois, la notion d'interterritorialité. Bravo. Je vous rappelle donc la parution de Le pouvoir des territoires, une des publications parmi d'autres de Martin Vanier, dont je rappelle aussi, c'est un élément biographique que j'aurais dû rappeler parce que ça peut expliquer cette pertinence du regard du géographe qu'il est. Je devais rappeler, je l'ai omis et je prie de m'en excuser, Martin Vanier a été aussi élu local, ceci pouvant expliquer cela. Voilà. Merci à vous.